a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ingekuwa wa maliwe,
avec Alex. Christine n'est pas là, je lui dis bonjour quand même au cas où elle nous écoute. Cette émission sera dédiée à Franz Fanon et je ferai des lectures de son livre L'an 5 de la Révolution algérienne. L'an 5 de la Révolution algérienne, eh bien, c'est l'année 1959. Et tout d'abord, quelques informations qui ne seront pas démodées, je pense, puisque cette émission donnera lieu à une retransmission pendant le mois d'août. Un titre, La fausse porte, Xavier Houssin, paru chez Stock. Qu'est-ce que c'est la fausse porte? C'est un endroit, si j'ai bien compris la présentation, où les enfants, hein, ce monsieur était un enfant dans les années 40, hein, laissaient leur cartable avant d'aller jouer, et c'est l'évocation de son arrivée en classe de sixième, un peu rude, d'être pensionnaire, alors qu'il avait toujours été heureux dans la maison de ses parents. À une nouvelle, j'aurais pu le dire au début d'ailleurs, hein, Amine Malouf a été élu à l'Académie française, et ce grand écrivain, hein, qui a évoqué le passé de l'Orient avec toutes ses philosophies, notamment celle du manichéisme avec la vie de Mani, c'est ce que je retiens pour ma part. Eh bien, à juste titre, il a sa place parmi les immortels, comme on dit. Enfin, un truc important, comment croire encore à la politique, c'est chez Bayard, et il s'agit d'une enquête faite au sujet des jeunes qui, on le dit, se désintéressent, sont victimes de la situation de la civilisation de consommation. Eh bien, il y en a qui s'engagent de façon peut-être que les anciens, comme nous, ne voyaient pas, et qui est véritablement de l'engagement. C'est sûr que pour tout de suite, les jeunes sont occupés de leurs projets personnels, mais ça ne les empêche pas de penser à autre chose aussi, et de s'engager, ne l'a-t-on pas vu, hein, dans le printemps arabe et chez nous aussi avec les indignés. Et puis il y a les jeunes de la JOC qui vont avoir leur congrès le 2 juillet, qui sont bien décidés à demander fermement un vrai travail. Enfin, quelque chose qui m'a inquiété, mais je ne vais pas vous dire de lire le livre, c'est plutôt la question qu'elle pose, le titre de Célia Bellin qui publie chez Fayard, c'est Jésus et juif en Amérique. Curieux de dire juif plutôt que pro-israélien, ou en tout cas son enquête montre que des chrétiens, pas seulement le lobby pro-israélien aux USA, sont favorables à l'État d'Israël. Et je terminerai par l'annonce d'une bande dessinée, elle s'appelle Les Mohamed. Qu'est-ce que c'est Les Mohamed? Ben, premièrement, c'est une bande dessinée qui fait la suite avec une autre qui avait été écrit par l'auteur Jérôme Rullier parce que il avait eu une enfant autiste et il raconte à quel point cela a changé sa vie et cela lui a donné, on peut le croire, des difficultés mais du bonheur. Et alors cette recherche de l'autre, de l'altérité, qui nous renvoie d'ailleurs à Fernand Deligny, hein, je salue sa mémoire et la copine qui a fait des émissions sur Radio Galère là-dessus et des réunions à Millebabord, non pas Millebabord, ou à l'Équitable Café. Je ferme ma parenthèse. Donc, intéressé et approfondissant le thème de l'altérité, il est allé voir le livre de Yamina Benguigui qui s'appelle Mémoire d'immigrés et il l'a adapté à sa façon, en mettant en scène des hommes, des femmes, des enfants aussi, qui sont marqués par le déracinement. Et c'est ainsi que cette bande dessinée s'appelle Les Mohamed. Elle est parue Sarbacane. Il y a 300 pages et c'est 25 euros. C'est évidemment pas donné, mais il est probable que ça vaut le coup. Voilà pour ce que j'avais comme information diverse. Et je passe tout de suite à la présentation de Franz Fanon. Est-ce que je vous présente l'auteur, auditeur, auditrice de Radio Galère, vous devez quand même savoir, mais je reviendrai simplement sur cette année 59, qui est l'année où il publie l'an 5 de la Révolution algérienne, et c'est une année où il est encore médecin-chef à l'hôpital de Blida. Il avait postulé pour être à l'hôpital quelques années auparavant. Il y a été nommé en 53. Il avait écrit « Peau noire, masque blanc » avant, et il est engagé à ce moment-là dans le soutien à la révolution algérienne. Et quand j'ai vu ce titre, l'an 5 de la révolution algérienne, premièrement, je savais que j'allais vous le lire parce que ça fait partie des quatre titres qui sont les ouvrages principaux de Franz Fanon et dans lesquels sont réunis des articles, mais il a aussi donné des conférences et il a écrit des articles dans différentes revues. Mais là, c'est regroupé donc dans ses ouvrages. Le premier qu'il ait publié en 1952, c'est « Peau noire, masque blanc », où il fait référence à son expérience d'étudiant et aussi à son enfance aux Antilles, puisqu'il est antillais, le plus noir de la famille. Et aux Antilles, il était convenu qu'on était européen, presque blanc, et qu'on pouvait mépriser les Africains. Donc, premier titre, peau noire, masque blanc. Ensuite, c'est l'an 5 de la révolution algérienne. Ensuite, c'est pour la révolution africaine, et enfin le dernier livre qu'il a écrit en se sachant condamné, puisqu'il avait une leucémie. Un certain mystère plane d'ailleurs sur le titre à donner, le nom à donner à cette maladie, et qui est Les damnés de la terre, l'ouvrage qu'il a fait davantage connaître. Donc, en 59, il est donc toujours médecin-chef à l'hôpital de Blida. Il n'a pas encore donné sa démission. Il ne s'est pas encore enfui en passant par la France et en profitant des réseaux curiels pour aller en Tunisie, où il a continué son action en étant rédacteur dans El Moudjahid et en faisant aussi des séjours en Afrique, puisqu'il était l'ambassadeur du GPRA. Voilà donc situé ce livre. Et alors moi je me disais, ça doit être un livre bien politique, avec des réflexions sur les différents courants du FLN, avant d'ailleurs 1954. Alors c'est pas le FLN, c'est la société algérienne, une étude un peu sociologique. Eh bien oui, c'est de la sociologie, mais pas comme je croyais. J'ai été toute étonnée en voyant qu'il parle, il parle des gens. Il parle de l'Algérie qui se dévoile Et dans ce mot des voiles, vous avez d'une part l'apparition d'un nouveau pays, c'est son idée, avec le mouvement, avec la rébellion, commence une nouvelle Algérie. Il dit, De Gaulle a dit, ce n'est pas l'Algérie de papa, il ne croyait pas si bien dire, et il va aller encore plus loin. Et évidemment, il s'agit aussi du dévoilement des jeunes filles en Algérie, puisque c'était le dévoilement, c'était une campagne de la France, de l'Occident, pour qui n'est-ce pas apporter la civilisation dans ce pays d'arriérés qui voilait ses femmes. Ensuite, il montre comment les Algériens, à l'époque ils n'étaient pas Algériens, ils étaient comme on disait autochtones et ou musulmans on les appelait, eh bien se sont mis à écouter la radio alors qu'il y avait de grandes réticences de leur part à écouter ce qui était comparable. Ça s'appelait Radio Algérie, mais en fait c'était la Voix de la France. Enfin, il étudie la famille, il étudie avec ses transformations, avec le développement de la révolution algérienne. Là, le rapport à la médecine change aussi. Voilà donc une image, mais une image qui est, pas du tout dogmatique, une image de la population telle qu'elle est, telle qu'il l'a connue. Et il faut dire aussi, c'est intéressant à savoir, qu'il n'a pas connu que la population de pauvres hères ou de militants qui venaient demander asile dans son hôpital, mais il a connu toutes sortes de milieux, puisque étant médecin-chef, il a commencé par être reçu, bien sûr, dans la société des médecins, des psychanalystes, qui était une société européenne, et raciste, il l'a bien senti. Et cette société avait une doctrine qui était le primitivisme, c'est ce qu'on appelait l'école d'Alger en matière de psychiatrie, et ils étaient persuadés que les autochtones n'avaient pas le cerveau supérieur développé et que c'est pour cela qu'ils développaient des comportements étranges. Et il s'est évidemment opposé à cela, puisqu'il a été un des fondateurs de la psychothérapie institutionnelle. Mais tout de suite, voyons cette question du voile. Cette question du voile, à l'époque où elle fait encore des rumeurs dans notre société française, eh bien, c'est une bonne chose que d'aller voir ce que en dit Frantz Fanon. On peut dire qu'il élève le débat. Et d'abord, il commence, c'est d'ailleurs quelque chose qui est à dire comme méthode d'écriture, il commence par dire ce qui est idéologique, c'est-à-dire ce qui représente le sens commun, qui n'est pas le bon sens, je le rappelle. Qu'est-ce qu'on dit dans les médias, comme on dirait maintenant, qu'est-ce qu'on dit communément. Et puis ensuite, il témoigne de ce qu'il a vu. Alors les Européens qui avaient quelques sympathies orientalistes, c'était la mode, faisaient des reproches au voile. Ils disaient que le voile dissimule la beauté de la femme. Et puis, dans leur langage, Frantz Fanon décrypte ce plaisir de dévoiler, c'est-à-dire de rompre une résistance. Car en effet, avec la propagande des assistants sociaux qui allaient dans les quartiers des villes, qui allaient dans les douars et qui incitaient les femmes à se dévoiler, il y avait une grande résistance. Moi, je me souviens avoir lu dans le livre de Baya Jurquet, la femme de notre ami Jacques Jurquet, s'il m'entend, je le salue, et qui avait été arrêtée. Bon, elle faisait du soutien à la rébellion. Elle a d'ailleurs été expulsée en France, et c'est comme ça qu'elle a connu le mouvement des dockers et qu'elle a connu Jacques Jurquet. Elle était une militante du Parti communiste algérien qui a eu une attitude très patriote pendant la rébellion, contrairement au PCF. Et je reviens à Baya, et bien elle a été arrêtée et on lui a arraché son voile. Et on voit bien à quel point là il y avait de la brutalité. Et de même on dit que c'est le blanc qui crée le nègre, mais réponse, c'est le nègre qui crée la négritude. Et c'est ainsi que le voile s'est vu comme un moment de résistance. Mais voilà, tout a changé à partir de 1954, début de la rébellion. Et à ce moment-là, et surtout, il dit, ça s'est passé en 55, quand les femmes sont entrées dans la guerre. Pour cette entrée des femmes dans la guerre, il faut bien dire, alors nous allons entrer un peu dans le domaine des hommes, puisque c'est l'affaire des hommes jusqu'alors, c'est qu'ils avaient beaucoup de craintes, ils avaient des hésitations, craintes, c'était trop difficile pour les femmes, trop dur. Est-ce qu'elles arriveraient aussi, des craintes alors sur leur morale, est-ce qu'elles arriveraient à supporter la tension que suppose l'entrée en résistance? Mais en définitive, eh bien, il y a eu un grand succès et les femmes ont réussi à imposer leur présence dans la guerre. Je fais la première lecture. Les observateurs, devant le succès extraordinaire de cette nouvelle forme de combat populaire, ont assimilé l'action des Algériennes à celle de certaines résistantes ou même d'agents secrets de services spécialisés. Il faut constamment avoir présent à l'esprit le fait que l'Algérienne engagée apprend à la fois d'instinct son rôle de femme seule dans la rue et sa mission révolutionnaire. La femme algérienne n'est pas un agent secret. C'est sans apprentissage, sans récit, sans histoire qu'elle sort dans la rue, trois grenades dans son sac à main ou le rapport d'activité d'une zone dans le corsage. Il n'y a pas chez elle cette sensation de jouer un rôle lu maintes et maintes fois dans les romans ou aperçu au cinéma. Il n'y a pas ce coefficient de jeu, d'imitation, présent presque toujours dans cette forme d'action quand on l'étudie chez une occidentale. Ce n'est pas la mise au jour d'un personnage connu et mille fois fréquenté dans l'imagination ou dans les récits. C'est une authentique naissance à l'état pur, sans propédeutique. Il n'y a pas de personnage à imiter. Il y a au contraire une dramatisation intense, une absence de jour entre la femme et la révolutionnaire. La femme algérienne s'élève d'emblée au niveau de la tragédie. Entendez donc à la fois ce dynamisme des femmes qui se lancent dans le combat et la différenciation qu'il fait très justement entre ce qui est la femme agent secret et l'image que l'on peut se faire quand on a lu SOS 117 ou je sais pas quoi. Hein. Voilà, c'est tout à fait autre chose. C'est une naissance qu'il est en train de saluer. Et cette naissance engendre de nouveaux rapports entre le père et la fille. Le père, ça va être développé dans le chapitre sur la famille, mais je le dis tout de suite, le père, c'est quelqu'un qu'on ne contredit pas, c'est quelqu'un qui a tout pouvoir sur sa femme et sur ses enfants, et c'est quelqu'un devant lequel on ne doit pas rire, et c'est quelqu'un sa fille n'ose pas regarder dans les yeux. Pas question, je me souviens de jeunes émigrés qui venaient d'Algérie mais qui étaient en France depuis quelques années, hein, dans les années 70, faisaient disparaître illico leurs cigarettes quand on annonçait que le père allait bientôt venir avec une espèce de frémissement, une espèce de peur. C'était autre chose que simplement le fait de se cacher pour fumer. Non, il y avait autre chose qui transparaissait là. Et donc, et entre le père et la fille aussi, il y a des réactions, des relations marquées par une extrême pudeur. Le père, je l'ai entendu d'ailleurs à la radio mercredi dernier, et avec une lecture aussi de France Fanon, et tirée de là, je ne vous referai pas la lecture puisque vous l'avez déjà eue,
Eh bien, le père ne doit pas voir dans sa fille une femme. Il doit toujours voir en elle une enfant. Et c'est ainsi que, donc, la pudeur gère leur relation. Et ces relations vont être changées à l'occasion de l'entrée dans la guerre de libération. Et c'est là, c'est une petite anecdote que je vous donne plutôt que donc ce changement des relations, parce que c'est maintenant désormais une relation de combattant à combattant et le reste des relations s'efface. Mais là, voilà une anecdote. Une autre difficulté qui mérite d'être signalée est apparue dès les premiers mois d'activité féminine. Il faut dire que c'est le moment où on dit que à une jeune fille, tu es repérée, ne reste pas chez toi, et puis ensuite, décidément tu es repérée, il vaut mieux que tu prennes le maquis, et donc la jeune fille disparaît. Voilà la situation dans laquelle on se trouve. Et je reprends, au cours de ces déplacements, il arrive en effet que la femme algérienne dévoilée soit vue par un parent ou un ami de la famille. Le père est assez rapidement prévenu. Le père hésite naturellement à accorder foi à ces allégations. Puis les rapports se multiplient. Des personnes différentes affirment avoir aperçu Zora ou Fatima dévoilées marchant comme une « Mon Dieu, protégez-nous ». Le père décide alors d'exiger des explications. Dès les premières paroles, il s'arrête. Au regard ferme de la jeune fille, le père comprend que l'engagement dans l'action est ancien. La vieille peur du déshonneur est balayée par une nouvelle peur, toute fraîche et froide, celle de la mort au combat ou de la torture de la jeune fille. La famille tout entière, derrière la fille, le père algérien, l'ordonnateur de toute chose, le fondateur de toute valeur, sur les traces de la fille, s'infiltrent, sont engagés dans la nouvelle Algérie. Je vous parlais d'une disparition de la fille, mais là il s'agit de quelque chose de beaucoup plus quotidien, c'est qu'elle a été vue ne portant plus le voile. Je parle déjà depuis un moment, je vais demander à Alex de nous trouver un peu de musique avant d'étudier le rapport avec la radio. Livres amis du 29 juin, numéro de téléphone de l'antenne si vous voulez me poser des questions sur ce livre que j'ai en main, 04 91 08 28 10, et voyons comment le rapport à la radio a changé avec la lutte pour l'indépendance. Avant 1954, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait Radio Alger. Et Radio Alger, c'était avant tout la voix de la société coloniale, d'une radio qui était basée à Alger, mais qui disait les mêmes choses que la radiodiffusion française. Elle était l'expression de la société coloniale et de ses valeurs. Et pour le colon isolé, c'était le moyen de se sentir encore un peu civilisé. Une réflexion est signalée, c'est une chose qui était dite communément, sans le pinard et la radio, nous serions déjà arabisés. Voilà comment c'était à ce moment-là. Mais il y avait chez les Algériens donc une grande, à noter que Frantz Fanon emploie toujours le mot algérien, hein, et il y a une grande réticence par rapport à la radio, et pour des raisons qu'il donne aux sociologues qui s'en inquiètent, parce que pour les autres, c'est qu'ils n'écoutent pas la radio parce que ce sont des primitifs. Eh bien, il donne des raisons qui sont des raisons d'ordre privé et familial. Hein, c'est un argument qui est donné par les sociologues et qui presse de question les Algériens sur la raison de leur résistance à écouter la radio, et voici la réponse qu'ils ont. Les traditions de respectabilité revêtent chez nous une telle importance et une telle hiérarchisation qu'il nous est pratiquement impossible d'écouter en famille les programmes radiophoniques. Les allusions érotiques ou même les situations burlesques qui veulent faire rire, évoquées à la radio, provoquent au sein de la famille à l'écoute des tensions insupportable. Alors vous voyez, hein, les histoires papa, maman, la bonne et moi, ça leur va pas du tout, aux Algériens. Mais avec la révolution, on voit les choses qui changent. Et François Non a cette belle phrase, parce que le ton est souvent épique, hein. Il est familier, mais il est aussi épique. C'est probablement ce qui caractérise le style de Frantz Fanon. Il dit « L'Algérien a besoin de hisser sa vie au niveau de la révolution. » Et cela commence par de la presse écrite et avec des difficultés qui se laisse voir, parce que les choses ne vont pas se faire toutes seules. Voilà l'état des choses, pour résumer, hein, du côté algérien avant la rébellion. Avant, et il parle là de l'Algérie tout entière, alors que je vous donnais une citation concernant l'intérieur de la famille. Avant la rébellion, il y a la vie, le mouvement, l'existence du colon, et en face, l'agonie continuée du colonisé. Avant la rébellion, il y a la vérité du colon et le néant du colonisé. Depuis 1954, l'Européen constate qu'une autre vie s'est mise en branle, parallèlement à la sienne, et que, dans la société algérienne, semble-t-il, les choses ne se répètent plus comme avant. L'Européen, après 1954, sait qu'on lui cache quelque chose. C'est la période où la vieille expression péjorative du téléphone arabe prend une signification presque scientifique. C'est ainsi, hein, que dans le Maghreb, les Européens apprennent la rapidité avec laquelle, de bouche à bouche, les nouvelles sont diffusées dans la société autochtone. Mais on n'en est pas encore à la diffusion par la radio. Et d'ailleurs, cela commence par la presse écrite. Les Algériens achètent les publications progressistes de la France, Le Monde, Le Nouvel Observateur, etc. Et comme ils se font repérer, parce qu'acheter cette presse-là, c'est un acte qui vous signale, eh bien, et ils envoient les enfants acheter des journaux. Mais bientôt, l'administration coloniale s'en rend compte et il est interdit aux buralistes de vendre des journaux aux enfants. Et c'est alors que, en 1956, tout change. Sa grande année, hein, c'est l'année aussi où Frantz Fanon donne sa démission. Et on annonce par tract la voix de l'Algérie libre, autrement dit, voilà une radio qui se lance, et c'est annoncé par voie de tract. La voix de l'Algérie combattante aura, sur le plan de la cohésion, de la prise en masse du peuple, une importance capitale. Nous verrons que l'utilisation des langues arabes, kabyles et françaises, expression d'une conception non raciste comme le colonialisme a dû en convenir, eut l'avantage de développer et de renforcer l'unité du peuple, de faire exister le Djurdjura au combat pour les Algériens patriotes de Batna ou de Nemours. Les actes découpés et morcelés, glanés par le correspondant d'un journal plus ou moins attaché à la domination coloniale ou communiqués par les autorités militaires adverses, perdent leur caractère anarchique et s'organisent dans une pensée politique nationale et algérienne, prennent place dans une stratégie d'ensemble de la reconquête de la souveraineté populaire. Les actes épars s'insèrent dans une vaste épopée, et les Kabyles ne sont plus ceux des montagnes, mais des frères. qui, avec Ouamran et Krim, mène la vie dure aux troupes ennemies. Voilà le rôle de l'Algérie, la voix de l'Algérie. Et on voit donc ce rôle dans l'unité du peuple et dans l'élaboration d'une stratégie. Une chose à noter à ce sujet, c'est le choix qu'ils font de la langue française. Autrefois, il était de bon ton dans les cercles anticolonialistes de parler arabe. Et bien maintenant, la langue change, elle devient un outil de libération. Et on voit bien le congrès de la Soumam qui, ce congrès réunit pour jeter les bases doctrinales de la lutte et puis pour constituer le CNRA, le Conseil national de la révolution algérienne, il a été rédigé en français. Et c'est donc important cet usage nouveau de la langue française. Et on voit donc les grandes différences qui se font jour de 57 à 59. La parole de la nation, parole écrite avec des lettres italiques et un grand P, et le verbe, toujours lettres italiques et un V majuscule, la parole de la nation, le verbe de la nation ordonne le monde en le renouvelant. Avant 1954, la société autochtone dans l'ensemble rejette le poste de TSF, se ferme à l'évolution technique des méthodes d'information. La société algérienne dans son ensemble n'accepte pas la radiodiffusion. Il n'y a pas d'attitude réceptrice devant l'importation organisée par l'occupant. Dans la situation coloniale, le poste ne répond à aucun besoin du peuple algérien. Le poste est au contraire perçu, nous l'avons vu, comme moyen qu'à l'ennemi de poursuivre, sans éveiller l'attention, son travail de dépersonnalisation. Il faut souligner, à ce moment, il dit, l'attitude des autorités françaises dans l'Algérie de 59. La télévision existe depuis quelques années en Algérie. Jusqu'à ce jour, un commentaire bilingue simultané accompagnait les émissions. Depuis quelque temps, le commentaire arabe a cessé. Le phénomène exprime encore une fois que Radio Alger répond parfaitement à la formule « Les Français parlent au français ». Voilà donc l'importance du mouvement. Et j'ajoute, ce n'est pas un détail, hein, que comme l'électricité n'est pas partout, eh bien se sont développés le commerce des radios à piles et des piles électriques. Et alors les piles, elles ont été absolument dévalisées au début de la lutte, et il y a eu interdiction d'importer des piles. Mais les commerçants algériens, et ça a été pour eux un moyen de participer à la lutte, eh bien ils se sont débrouillés pour se procurer des piles, et que les piles ne manquent pas à ceux qui voulaient écouter la voix de l'Algérie libre. Et voilà ce mouvement qui prend de l'ampleur et qui va toucher la famille. Et je reviens à l'idée que je vous avais donnée, que je me suis un peu trompée dans mes passages, quand la fille est au maquis et quand elle revient dans sa famille. Quelquefois, la fille, avec une nouvelle carte d'identité, descend dans la famille. Elle a alors l'occasion de raconter au père et à la mère les actions prodigieuses qui ont lieu tous les jours dans le Djebel. Elle montre des photos. Elle parle de ses chefs, de ses frères, de la population, des blessés, des prisonniers français. Elle regarde le père, elle s'assied en face de lui, lui parle et n'est pas gênée. Et le père ne détourne pas son visage, il n'a pas honte. Il a tout au contraire une joie réelle à retrouver sa fille, à voir sa nouvelle personnalité rayonner dans la maison. Et il n'est pas mécontent que sa fille parle à voix haute et ne lui vient absolument pas à l'idée de lui rappeler que la femme doit se taire. Pendant les 3 jours que dure la permission, le père n'éprouve pas le besoin d'interroger sa fille sur sa conduite morale ou maquille. Ce silence n'exprime pas un désintérêt ou une résignation pour la virginité taboue d'hier. c'est que le père mesure le pas immense franchi par la société, et ces questions qui n'ont pas cessé d'être présentes à son esprit se révèlent inopportunes et inessentielles. La fille algérienne qui émerge dans le ciel mouvementé de l'histoire convie son père à une sorte de mutation, d'arrachement à soi-même. Demander à une femme qui quotidiennement affronte la mort si elle est sérieuse devient grotesque et dérisoire. La fille militante, en adoptant de nouvelles conduites, échappe aux traditionnelles coordonnées, les anciennes valeurs, les phobies stérilisantes et infantilisantes disparaissent. Une autre petite scène de famille que j'ai bien aimé relever pour vous, elle concerne la relation de la femme et du mari. Et le mari, nommons-le Mustapha, vient de rentrer chez lui, tout à l'heure avec un autre fidaï. Il a jeté plusieurs grenades sur les locaux de la police judiciaire, où nuit et jour sont torturés des patriotes.